Ben nous, on croit que faut pas arrêter la grève parce que c'est de la bombe bébé.
C'est parti. Salut Daniel, on est vraiment, on fait les 24 heures du Mans en manif contre le démantèlement du service public. Il est 1h du mat, on tient depuis 14h jusqu'à 14h demain, et on n'est pas fatigué. On est pas fatigué. On est pas fatigué. On est pas fatigué. On est pas fatigué. Non. Salut Daniel.
Oui, bonjour, bonsoir. Il est 2h du matin, c'est Attaque 72. Je vous rappelle pour vous signaler que les 24 heures manif sont un véritable succès. Il y a encore 200 à 300 personnes à défiler dans les rues du Mans sur un circuit où on y a le virage Fillon, la ligne droite Chirac, le Dodane Raffarin. C'est un véritable succès pour les syndicats qui ont organisé ça contre la réforme des retraites et contre la décentralisation. C'est à voir et c'est étonnant. Merci, à bientôt.
Nous exigeons sereinement, dans l'intérêt de tous, le report des examens pour cause de différends sociaux forts et de refus caractérisés d'écoute. Nous ne sommes ni des irresponsables, ni des demeurés. Nous nous méfions des politiques. Nous défilons entre les façades et sur les avenues dessinées par Haussmann, sans oublier que l'astucieux préfet, stratège, voulait d'abord prévenir les barricades. Alors, à dimanche, les avenues ne seront pas assez grandes. Merci Mermé, à ciao.
Jo, Colorado, avec nous, il faut sauver la météo.
Salut Daniel, la Réunion est toujours mobilisée contre les réformes de merde du gouvernement, on est tous là dans la rue, bisous.
Bonjour Daniel Mermé, ici c'est Fanny, et on est à Aix. Et il y a 20 000 personnes dans la rue encore. Donc je laisse un message sur ton répondeur parce que apparemment il y a que là où on peut entendre des vraies infos. Donc là il y a 20 000 personnes encore dans la rue. Essentiellement des gens de l'éducation pour manifester contre la décentralisation. Voilà, merci.
Voilà, écoutez, moi je suis vraiment tout dépité, quoi. Au début j'avais la haine contre le gouvernement, après j'ai eu envie de... Il m'a fait vomir. Et puis ce soir j'écoutais Fillon et je me suis dit, mais attends, après avoir eu la haine, après avoir vomi, qu'est-ce que je peux faire? Alors il m'a fait la pitié. Alors à Marseille, quand on a la pitié de quelqu'un, alors là c'est qu'il craint, vraiment il craint. Quand j'ai entendu parler, je me suis dit, mais coquin de sort. Alors par contre, pour ceux qui ne savent pas, c'est que lui qui vient du Nord, lui qui habite là-haut, la capitale, ma foi, Paris, mais il sait pas que le Sud, dans le Sud, à Marseille, mais on met le feu dans les manifestations, nous. On craint des gueules, on met le feu. Alors qu'il vient nous écouter, parce que s'il faut lui déboucher des gourdes à ce coquin de sort, on va le faire. Alors ferry, alors le truc en ce moment, c'est qu'on dit à Marseille, on dit le ferry boite. Alors bon, c'est rigolo, on rigole dans les manifs aussi, parce que nous, on a le feu. Et alors s'il boite, le père ferry, ben s'il a des gourdes bouchées, c'est pareil, on va lui déboucher. Allez, bis à tous et continuons la lutte parce que l'avenir nous appartient. Olivier de Marseille.
1986, soit 18 ans après 1968, après 2 semaines d'action et de manifs monstres dans toute la France, les étudiants obtiennent le retrait du projet de loi de Vaquet qui prévoyait l'autonomie des universités, avec sélection à leur entrée. Un slogan revient, non aux facs Coca-Cola. 18 ans plus tard, soit en 2004, les universités se préparent à obtenir leur autonomie. L'étudiant devra postuler à l'entrée des facs et s'acquitter d'un droit d'entrée. La maîtrise disparaît, laissant la place au master. L'année à l'étranger devient obligatoire dans le cursus. Un stage en pays anglo-saxon sera particulièrement bienvenu pour s'insérer dans la nouvelle économie ultralibérale. Les restos U disparaissent, laissant la place à des services de restauration privés. Des grandes marques de fast-food sont déjà sur le marché. Tout va bien, personne n'a rien vu venir. Au revoir.
l'Europe de Bruxelles, c'est le cheval de Troie des États-Unis en Europe, tout simplement. Et donc, on a affaire à une Europe libérale. Tout le monde vote libéral à longueur de temps, à longueur de journée, en faisant l'alternance entre le libéral de gauche ou libéral de droite, mais c'est toujours libéral. Donc, quelle différence y a-t-il entre libéral de gauche et libéral de droite? Eh ben, y en a peut-être certains de libéral de gauche qui disent « Tiens, on va faire le Pax ». Puis ceux de droite qui disent « Oh non, non, on n'est pas d'accord ». Puis après, ce droit dit, oh, en fin de compte, si, on est quand même un petit peu pédé, en fin de compte, on va garder le Pax. Il n'y a pas vraiment grande différence entre libéral de gauche ou libéral de droite.
Oui, bonjour Monsieur Mermet. Je viens d'écouter vos émissions gauchisantes sur Bobigny. Voilà mon petit cas personnel. Je suis allé à l'école dans un lycée public. Moi-même étant issu d'un milieu défavorisé, je ne suis tombé que sur des incapables, des gauchistes, qui ne pensaient qu'à leur petit boulot. Voilà, donc j'ai fait des études, et maintenant je m'en suis sorti. J'habite dans un quartier favorisé, entouré de gens sympas. Et je crache sur vos émissions de merde. Voilà, c'est tout. Et vive la démocratie, continuez quand même vos émissions. Merci.
Bonjour Daniel Mermet, bonjour ami français. Je sais qu'il se passe plein de choses chez vous. Est-ce que tu vas quand même passer à Genève? Ici, c'est la psychose avant G8, je te raconte pas, mais si, je te raconte. Les commerçants clouent des panneaux de bois devant leurs vitrines. La chef de la police a convoqué des renforts allemands et se dispute avec la Confédération pour savoir qui va payer l'énorme facture. Elle fait recouvrir de goudron les tranchées du tram actuellement en travaux sur la rive droite pour éviter que les manifestants qui seront sur la rive gauche se servent en cailloux. Hein, c'est pour la modique somme, je crois, de 500 000, ce sont des chiffres qui courent. Genève se protège une semaine avant contre des manifestations dont on ne connaît pas encore le trajet. Je te dis pas l'ambiance, les discussions de café de commerce. Est-ce que tu passes par là ou à Annemasse, éventuellement il se passera aussi beaucoup de choses dans les villages alternatifs et aussi à Lausanne, déjà jeudi de l'Ascension. Enfin, on espère que tu soutiendras aussi les gens qui ont quelque chose à dire contre le G8. Et on te soutient pour tout ce qui se passe actuellement en France. Au revoir et merci pour ce que tu fais.
Il y a quelques jours, une personne qui travaille dans la fonction publique a parlé d'un rapport de l'OCDE qu'elle a lu sur l'antenne. Je serais très intéressée pour avoir ces quelques pages si c'était possible. Parce que je trouve quand même inadmissible ce que peut faire ce genre de personne en parlant des gens. Je vous remercie bien et merci pour votre émission. Au revoir.
Oui, vous avez été nombreux, vous êtes très nombreux à demander comment retrouver ce texte lu par une auditrice. Effectivement, alors d'abord, on va réentendre ce fameux message, mais je peux vous dire que ce texte, qui est le cahier de politique économique numéro 13, diffusé par le Centre de développement de l'OCDE, eh bien, vous pouvez le trouver sur Internet. Dans n'importe quel moteur de recherche, il suffit de taper, d'écrire cahier de politique économique numéro 13, et puis vous le trouvez. C'est une quarantaine de pages, c'est un peu long à lire, ça donne une idée quand même de ce qu'est un think tank, c'est-à-dire une boîte à idées qui donne des idées, qui dit à l'OCDE sur un ton parfaitement cynique comment s'y prendre pour manipuler l'opinion, quoi, tout simplement. Oui, c'est une voilà, cette auditrice et puis d'autres, beaucoup d'autres l'ont trouvé sur Internet. Aujourd'hui, alors d'abord à notre ami suisse qui nous appelle de Genève. Mais oui, mais on va y aller, mais bien sûr qu'on va y aller, vous pensez bien. Alors Lausanne, Genève, Annemasse et tout ça, mais c'est bien sûr que ça nous intéresse. Et surtout, évidemment, c'est cette psychose sécuritaire qui nous intéresse tout particulièrement. Manque de chance, l'auditrice n'a pas laissé son numéro. Mais si vous êtes dans le coin, eh bien ça nous intéresse beaucoup d'apprendre des histoires comme ça. Je vous rappelle le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis. 01 56 40 37 37. Aujourd'hui, à nouveau, nous voilà dans l'école Karl Marx à Bobigny, avec les nantis du 9-3 de la banlieue parisienne. Comment les instits d'une école tout à fait ordinaire vivent ce que nous sommes tous en train de vivre actuellement. donc d'autres messages d'ici là, et le fameux message de nos lectures de cet extrait, de ce texte destiné à la cahier de politique économique numéro 13, destiné donc à l'OCDE.
Oui, bonsoir Daniel Mermet, bonsoir à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Moi voilà, je suis conseillère d'orientation psychologue et dans mon CIO, on lutte depuis 5 semaines pour mobiliser les enseignants et l'opinion publique contre les projets de démantèlement de l'éducation nationale. Dans mon CIO donc, eh ben, il y a un texte qui circule. Et alors ce texte c'est quoi? Ben, c'est un extrait des cahiers de politique économique de l'OCDE. Vous savez ce que c'est l'OCDE, hein? C'est cette brillante organisation de coopération et de développement économique à laquelle la France et l'Europe adhèrent. Alors, ben, je vous livre cet extrait qui illustre la stratégie actuellement à l'œuvre à travers les réformes de l'éducation nationale qu'on observe en ce moment. Alors, j'y vais. Si l'on diminue les dépenses de fonctionnement, il faut veiller à ne pas diminuer la quantité de services, quitte à ce que la qualité baisse. On peut réduire, par exemple, les crédits de fonctionnement aux écoles ou aux universités. Mais il serait dangereux de restreindre le nombre d'élèves ou d'étudiants. Les familles réagiraient violemment à un refus d'inscription de leurs enfants, mais non à une baisse graduelle de la qualité de l'enseignement. Et l'école peut progressivement et ponctuellement obtenir une contribution des familles, ou supprimer telle activité. Cela se fait au coup par coup dans une école, mais non dans l'établissement voisin, de telle sorte que l'on évite un mécontentement global de la population. On peut ne pas remplacer une partie des salariés qui partent en retraite, ou bien l'on peut supprimer des primes dans certaines administrations, en suivant une politique discriminatoire pour éviter un front commun de tous les fonctionnaires. Évidemment, il est déconseillé de supprimer les primes versées aux forces de l'ordre, dans une conjoncture politique difficile où l'on peut en avoir besoin. Alors voilà, c'était extrait de la faisabilité politique de l'ajustement, cahier de politique économique numéro 13, centre de développement de l'OCDE. Donc voilà, c'est effrayant. Moi, je me suis sentie vraiment humiliée en lisant ça en tant que personnel de l'éducation nationale, puis en tant que maman de 2 enfants. Alors, ben, faut tous être très solidaires face à cette destruction programmée de notre système éducatif. Alors nous, en tant que personnel éducation nationale, on peut peut-être se permettre de faire grève plus que d'autres, pour éviter que les valeurs de notre société soient complètement détruites. L'heure est vraiment très très grave à tous les niveaux de l'enseignement, hein, de la maternelle à la fac, et donc il faut essayer vraiment vraiment de sauver ce qu'on peut. Alors tous en grève, tous on se mobilise. Voilà, salut.
Oui, bonjour, c'est Laurence, Haute-Savoie, Thonon-les-Bains, côté du G8 qui se prépare. Alors, je suis tellement malade, outrée de voir toutes ces manifs de fainéants. Je pense que le message, il passera pas à l'antenne, mais enfin, c'est pour rassurer tous ces petits artisans qui vous ont déjà appelé et qui se sentent un peu seuls. Je suis malade et je pense qu'on est tous malades, ceux qui bossent, parce que ces profs, ils nous cassent la tête, ils sont toujours contre tout, à part faire la grève. Ils font croire à leurs élèves qu'ils font ça pour eux. C'est un scandale. On sait assez que les fonctionnaires et surtout ceux de l'éducation nationale sont des égoïstes. Ils pensent qu'à eux, d'ailleurs ils ont fait ce métier surtout pour tous les avantages, donc faut pas nous charrier là-dessus, nous prendre vraiment pour des imbéciles. Le social, il y en a vraiment marre et remarque. Je suis artisan depuis 17 ans, j'ai 2 enfants, je n'ai pas pris du tout de congé parental. Je suis partie accoucher en sortant du travail et je suis revenue en rentrant de la maternité. Je sais, je suis folle, mais je suis à mon compte et je bosse. Je prends quand même 2 semaines de vacances. Moi, ma retraite, je ne compte pas sur les autres. Je bosse et j'en suis fière. Quelle belle image pour les enfants. C'est honteux. Les Français, je crois, sont ingouvernables. Si on changeait carrément les retraites en passant par la retraite, chacun pour soi, je suis sûre que le chômage baisserait de beaucoup. Hein. En plus, ces feignants qui préfèrent vraiment le chômage à l'assistanat plutôt que le boulot, c'est pas eux, c'est sûr que c'est pas eux qui vont payer les retraites. Hein. Les 35 heures plus le chômage plus les feignants, là c'est sûr qu'il y aura pas beaucoup d'argent pour les retraités.
Bonjour Daniel Mermet, bonjour là-bas si j'y suis. Je viens d'entendre une collègue de la Seine-Saint-Denis, Véronique Wecker, à l'école Karl Marx, et puis je voulais lui dire merci. J'ai appris beaucoup de choses et pourtant ça fait 28 ans que je suis instituteur en Lozère et en Haute-Savoie, j'ai durant ma carrière, mais grâce à elle et grâce à l'émission, j'ai appris des choses incroyables. sur l'école de la République. Je ne pensais pas que des enfants pouvaient encore ne pas être vus pour des problèmes graves de santé au CP. Il faudrait vraiment, mais vraiment, j'ai envie de crier au téléphone, il faudrait vraiment que cette émission soit écoutée par Luc Ferry, par exemple, et dont les enfants ne risquent pas, eux, de louper des visites médicales. D'ailleurs, j'ai appris sur votre antenne que ces enfants étaient à l'école privée et non pas libre, comme on l'a dit. L'école libre, ça devrait être celle de la République, justement la nôtre, l'école laïque. Pour ma part, je travaille pour le CNED cette année, donc je ne peux pas faire grève directement, mais je participe financièrement aux déplacements de mes collègues. Je serai avec eux de tout cœur le dimanche prochain pour la grande manif à Paris. Et je vous remercie tous parce que c'est une belle émission et très émouvante. À bientôt. C'était Richard de la Lozère.
Ouais, salut Daniel. Eh ben écoute, ici au Mans, on a fait les 24 heures manif. Donc il y a plein de monde, c'est génial. Cette nuit, il y avait 600 personnes. Et puis là, il y a un comptage officiel qui est fait par les ingénieurs de l'ENSIM en grève grâce à des bouchons. Comme quoi être ingénieur, ça suffit. C'est bien. Donc voilà, salut.
Si on veut de la croissance et de l'emploi, il faut impérativement, de façon urgente et forte, s'engager dans la réforme de la structure même de notre société, de façon à retrouver l'efficacité, base de la réussite de l'entreprise, donc de la croissance et de l'emploi.
T'as un commentaire à faire, super intelligent encore ?
Le printemps social qui se met en place aujourd'hui et qui semble vouloir, comment dirais-je, interdire la réforme, nous conduira, si on y prend garde, à l'hiver économique. Hein.
George Bush, garde des silos.
Jacques Chirac,
garde des silos.
Tony Blair,
garde des silos.
OMC,
salut, c'est Daniel Mermet, avec Thierry Scharf, là-bas si j'y suis, avec les nantis du 9 cube.
Flight number 2, arriving from...
Bonjour, vous attendez la sortie des classes alors qu'il n'y a pas de classe?
Non, c'est parce que ma fille demain, lundi, elle doit partir en classe verte. Et je voulais absolument savoir si ils avaient bien un train, si tout était organisé et si tout allait bien se passer. Voilà.
Alors qu'est-ce que vous pensez, vous, les mamans de la grève, là, en ce moment?
Moi, je trouve qu'ils ont raison. Ils ont raison, hein, parce que avec tous les enfants qu'ils ont dans les classes, en plus, ils ferment des classes apparemment. Et puis, c'est pour nos enfants plus tard, quoi. Je veux dire, l'avenir de nos enfants qui est en jeu, donc c'est vraiment important. Donc surtout, c'est vrai que moi aussi, je me vois mal à 70 ans en train de nettoyer les classes ou donner à manger aux enfants. Je suis désolée. Moi, je trouve qu'ils ont tout à fait raison. C'est l'avenir de nous, de notre avenir et l'avenir de nos enfants pour qu'ils puissent avoir du travail plus tard.
Je fais de l'intérim. Alors en plus, en ce moment, ça me gêne parce que dès que j'ai une mission, comme il n'y a pas d'école, donc je suis obligée d'arrêter parce que mes enfants, j'ai personne. Donc malgré tout, je les garde et puis j'essaie de m'arranger à droite à gauche, mais c'est pas évident, quoi.
Non, mais c'est courageux, hein.
Ah oui,
de votre part, de les soutenir quand même.
Hein. Oui, je suis obligée de les soutenir, hein, parce que mes enfants, plus tard, ils vont continuer leurs études, j'espère, et puis qu'ils aient quelque chose en main.
Peut-être des politiques qui sont bien placées parce que leurs enfants sont dans des écoles privées et puis bon, ils ont plus de facilité que nous. Mais nous, dans les banlieues, on n'a déjà pas grand-chose. Donc, si on commence à nous supprimer des postes, et puis on va falloir qu'on se débrouille nous-mêmes. Bientôt, c'est nous qui allons faire cours aux enfants. Donc, ça va pas être évident. Hein. Ce qui va se passer, je veux dire, dans quelques années, s'il continue comme ça, il va y avoir, comme dans le temps, il y a très longtemps, il va y avoir le côté des riches et le côté des pauvres. Je suis désolée, ça va être ça. Je suis agent d'entretien, je suis désolée. Mais je veux dire, je souhaitais pas être agent d'entretien. C'est parce que j'ai pas eu le choix. Maintenant, si mes enfants ont peut-être... plus tard, ils auront peut-être le choix de choisir, donc c'est grâce à l'école, parce qu'ils auront appris plus que nous, donc l'école est très importante pour eux.
Ça n'a pas plus duré, ça va péter. Parole changer, enfants sacrifiés, retraites amputées. Ça n'a pas plus duré, ça va péter. Parole changer, enfants.
Les grands patrons sont-ils trop payés? C'est une question que se pose le quotidien Le Monde dans son numéro daté d'aujourd'hui. Les grands patrons sont-ils trop payés? Ah, alors, Le Monde n'a pas d'avis, mais pose la question et nous donne des informations. C'est donc un journal d'information qui nous apprend que, en l'espace de 10 ans, les salaires des 100 PDG les mieux payés a été multiplié par 30, non pas en 10 ans, mais en 30 ans. Hein? 30 fois plus en 30 ans. Dans les années 70, l'écart entre les plus bas salaires et les plus élevés aux États-Unis était de 40 fois. Aujourd'hui, il est de 500 fois. Pour vous donner une petite idée, Monsieur Barbakov, le patron de Tenet Healthcare, gagne chaque année 116 683 millions de dollars. C'est le premier, c'est l'homme qui gagne le plus de sous au monde. Monsieur Owen Jones Lindsay, le patron de L'Oréal, ne gagne que 6 225 millions de dollars. Monsieur Messier Jean-Marie gagne 5 720 millions de dollars. Il s'est augmenté entre 2001 et 2002. En 2001, il ne gagnait que 5 124 millions de dollars. Franck Riboud, Danone, en 2001, gagnait 2 300 millions de dollars et en 2002, 2 400 millions de dollars avec 50 000 stock options. Martin Bouygues, en 2002, 1994 millions de dollars avec 200 000 stock options, etc. Voilà, et la question, est-ce que ces gens-là sont-ils trop payés? Très bien, bon, c'est une question, chacun y répond comme il l'entend. Eh bien, nous, ça nous a donné, puisque là, on s'intéresse à des gens qui sont assez nantis, ça nous a donné, avec Thierry Scharf, l'envie d'aller voir ceux dont on dit qu'ils sont les nantis, c'est-à-dire les fonctionnaires de l'éducation nationale. Et où est-ce qu'on est allé? Eh bien, tout près d'ici, tout près de la maison de la radio, dans le 9-3, c'est-à-dire dans le 93, c'est-à-dire dans la Seine-Saint-Denis, dans une école primaire qui s'appelle l'école Karl Marx, c'est un nom connu, c'est vrai, à la suite d'une rencontre que nous avons faite dans une manif avec la directrice de cette école, Véronique Decker. Et hier, on a vu un peu ce qu'était la vie quotidienne chez les nantis du 9-3, et ça continue aujourd'hui.
J'enseigne tous les jours dans une école de banlieue. Je me demande comment je ferai quand je serai un peu plus vieux. Pour pas faire 42 comme le voudrait Raffarin, il faut manifester et chanter ses refrains. Si tu m'appelles porte-près de François Fillon, je partirai la prête avec du poignant. Si j'avais compte
de banque de Jacques Chirac,
je partirai la prête. Rien avant que je plaque, c'est bon la Chiraki, comme le dit Luc Ferry, qui dépose des millions dans son bouquin à la con. Souvent les soirs d'été, je m'assois de la cour d'écrire, se ferme doucement les yeux, et le plus décolombé, si j'avais le portefeuille de François Fillon.
Partirait à la fête, avec du pognon, si j'avais le compte en banque de Jacques Chirac, je partirais à la fête, rien avant que je plaque.
C'est une école vide là, hein?
Ben oui, l'école est vide, et là on est dans le bâtiment des petits, donc il y a la classe d'accueil pour les élèves non francophones.
Alors Véronique, ça fait combien de temps que vous êtes directrice?
Une petite dizaine d'années, mais ça fait 3 ans que je suis dans cette école. Avant j'étais directrice d'une école maternelle, et puis au bout de, je sais pas, 6 ans, 7 ans de maternelle, j'ai eu envie de changer. Et puis envie de faire un projet un peu plus ambitieux pour une école plus grande, de regrouper une équipe de gens qui avaient envie de travailler sur les principes de la pédagogie Freinet. Donc c'est ce qui fait de nous une école un tout petit peu particulière.
Alors l'école Karl Marx de Bobigny, si je vous demandais de définir l'école, de la qualifier...
Ce qui est sûr, c'est qu'on est plombé par l'adresse. Karl Marx, avenue Lénine à Bobigny, ça y est, les gens, hop, ils ont bloqué un imaginaire là-dessus. Et ils nous voient comme un espèce d'immense élevage de sauvageons. Et ça, c'est une idée dont il faut absolument sortir. C'est une idée complètement fausse sur la banlieue, qui est l'idée que les enfants immigrés posent des problèmes à l'école. Ça, c'est totalement faux. Nous qui sommes l'école qui a la classe de clean, On peut le dire, les élèves les plus scolaires de l'école sont ceux qui arrivent d'autres pays.
C'est donc ceux qui apprennent une classe d'apprentissage pour les non francophones.
Voilà. Et ils ont une appétence extraordinaire pour notre système scolaire. Ils viennent de systèmes scolaires où les conditions sont moins bonnes en général qu'en France, et ils apprécient pleinement l'école. Ce sont ces élèves-là qui vont faire nos meilleurs élèves de CM2.
Ah oui.
Ouais. Alors là, il faut sortir de l'image. Voilà. Le niveau baisse parce que tout le monde va au collège. Moi, quand j'étais en CM2, on était 32 filles dans mon CM2. On a été deux à aller au collège. Donc évidemment, le niveau était pas le même. Moi, si je n'envoyais que deux élèves de chaque CM2 au collège, le niveau des collèges, il serait pas le même. Mais il faut pas oublier que l'école, là, tous ceux qui adorent Jules Ferry et tout ça, faut pas oublier, les bons, ils allaient au CES. Et j'ai pas 100 ans, donc c'est pas il y a si longtemps que ça. Et les moins bons, ils allaient au CEG. Et dans mon village ouvrier de l'Est, ils allaient chez Solvay après.
Véronique Decker, directrice de cette école primaire, qui nous rappelle que l'école, c'est le tri, mais c'est aussi l'intégration, c'est aussi l'émancipation, c'est tout ça, c'est une vieille question. Alors en ce moment, la question de la décentralisation, la question des retraites, la question des financements, des budgets, etc. Mais on sent bien que derrière tout cela, il y a des problèmes beaucoup plus profonds, beaucoup plus graves, qui ne sont pas seulement, qui relèvent pas d'un vague malaise, un mal-être, mais qui essayent d'envisager des problèmes beaucoup plus profonds de société, de civilisation, et c'est tout ça qui est en question actuellement. C'est ce qui se donne à entendre dans non seulement dans notre petite émission Modeste et Géniale, mais partout en ce moment dans ce pays, peut-être moins à Paris d'ailleurs qu'ailleurs, hein. C'est sans doute à Paris ça bouge le moins, ça va bouger dimanche, mais ça bouge partout. Vous avez entendu au Mans, à Marseille, partout, ça, au Mans quand même, ils ont fait une manif pendant 24 heures, les 24 heures du Mans. Alors vous vous souvenez des élections, 21 avril, abstention, oh là là, catastrophe, les Français s'intéressent plus du tout à la politique, Bourdieu lui-même dénonçait la politique de dépolitisation. Il se trouve que là actuellement les Français font de la politique. Ça c'est ça la politique. C'est se prendre le chou, c'est partir de ses intérêts parfois personnels, le beefsteak, la retraite, etc. pour réfléchir, aller plus loin, se poser des questions, des grandes questions et des questions profondes. Et évidemment que en première ligne, eh bien il y a les enseignants qui sont confrontés à cet ensemble de problèmes que nous connaissons tous. Là, on est dans un lieu commun, c'est-à-dire dans une école.
Pour ses problèmes, il a rendez-vous chez le médecin tout à l'heure ? D'accord, mais est-ce qu'il ne pourrait pas aller chez le médecin pour son petit souci de bouton ce soir, pour qu'on puisse l'emmener quand même en classe découverte ? Parce que ça serait dommage qu'il ne puisse pas partir. Non, mais je sais bien, mais c'est important aussi de partir en classe verte avec nous, quoi. C'est pour ça. Ça m'embête de ne pas l'emmener, en fait. C'est pas que je veux vous embêter, c'est que ça m'embête parce qu'il a très envie de partir et ça m'embête de pas l'emmener. Oui, je vous remercie quand même de m'avoir écouté. Au revoir.
Vous prenez votre portable pour appeler les parents?
Oui, je suis obligée parce que c'est des numéros de portable et il aurait fallu que je descende dans le bureau de la directrice pour appeler. C'est compliqué là. C'était urgent, il fallait que je le fasse tout de suite. Donc oui, c'est le portable personnel avec facturation personnelle.
S'il vous plaît.
Si, j'ai des feuilles blanches. Mamadou?
Alors, vous partez bientôt en classe verte, là, c'est ça, hein, lundi?
Alors, lundi, oui, c'est ça. Ouais.
Et il y a un enfant qui ne sera pas du voyage?
Non, il ne va pas partir parce que sa maman me dit qu'il doit retourner voir un médecin parce qu'il a des problèmes de santé. Et puis, déjà l'année dernière, elle avait attendu le dernier moment pour nous donner de l'argent et remplir la fiche médicale. Donc, on s'était battu pareil, jusqu'au dernier moment pour pouvoir l'emmener. On avait réussi à l'emmener, mais cette année, je crois qu'on n'y arrivera pas.
Alors là, il se trouve que vous êtes gréviste, hein, depuis le début, hein, mais... vous maintenez cette classe verte, c'est-à-dire que vous allez partir une semaine, 10 jours, là, bien qu'étant gréviste, alors vous êtes toujours gréviste et...
Dans l'âme, on est gréviste, maintenant on est, c'est vrai qu'on peut pas se permettre de pas les emmener. Mmh. On pourrait, mais c'est des enfants qui n'ont pas spécialement l'occasion pour tous d'aller à la mer ou de partir en vacances, donc c'était pas possible de renoncer à ce projet, enfin, nous, ça nous paraissait pas possible de renoncer.
Dans tous les quartiers! dans toutes les régions, un même droit à l'éducation.
Comment tu t'appelles toi, ton prénom? Hein?
Randy.
Randy? T'as quel âge?
J'ai 11 ans et demi. J'habite à Karl Marx, là, ici, juste vers les dalles.
T'as toujours habité dans la cité?
Avant, j'ai habité à Pantin.
Mmh.
Et après, je suis venu ici. Mmh. À part de Pantin, j'habitais dans un hôtel.
Dans un hôtel?
Oui. Mmh. Après, je suis venu ici. Ouais. Au début, je connaissais personne, et après, je commençais à connaître des gens.
Et t'as habité longtemps à l'hôtel?
Oui.
Ouais.
On habitait là-bas, après on avait trouvé une maison et c'était ici.
T'habitais avec qui à l'hôtel?
Avec ma mère.
Tout seul, avec la maman?
Non, avec mon père aussi.
Ouais. Là t'habites avec ton papa et ta maman?
Non, là j'habite seulement avec ma mère, avec ma soeur et ma petite soeur.
Et le papa alors?
Et ma mère, avec mon père. Mmh. Ils avaient divorcé.
Il travaille ton papa?
Non.
Et ta maman?
Oui, elle travaille dans les cantines.
Et alors toi, tu vas partir dans la classe verte, là?
Non, je pars pas.
Tu pars pas? Et t'es triste de pas partir?
Oui, j'avais pas payé, c'est pour ça que je peux pas partir.
Mmh.
Parce que ma mère a devait venir aujourd'hui, et elle est pas venue.
Demande à Pikachu, donne-moi tes billets, ton goûter, tes billets, ton goûter, ouais, ouais, ouais. Je m'appelle MC Pokémon Nebo, j'ai 7 piches, je suis en C20, je taffe pas du tout, bien, non. À la récré, je carotte tous les bouffons, ouais, donne-moi ton billet, goûter, à base de coups de pression. Donne-moi tes rats, veulent ma bite, mais rien à foutre. Moi je défonce tous les guerres au basket et au foot. Fuck les maths. Fuck le français, je suis une putain de Kaira et ça tout le monde le sait, tu sais. Quand tout le monde me suce, bande de bouffons, ouais, je suis le chef de la récréation. Maîtresse Omar, maîtresse, toi je veux pécho tes fesses. À la foutre du CE2, moi je ferai du rap. Je vais passer sur Skyrock et faire des rats. Ce sera mieux que ces bouffons qui pètent les plombs. MC Pikachu, espèce de con. Hein, MC Pikachu. Ouais, MC Pikachu. Les condés, je les insulte. Nique ta race. Je suis mineur, rien à foutre, je retournerai en classe. Ah ouais. Je fraude le bus, baisse les contrôleurs. Y'a rien à faire. Dans un ou deux ans, je serai putain de streamer.
Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel encore?
Je suis en train de m'entraîner, je fais du rap, papa.
Tais-toi. Et toi, donne-moi ce CD.
Non.
Fous ça à la poubelle directement. Donne-moi ça, je te dis, ou tu vas te la prendre de là. Tu vas comprendre quelque chose. Tiens, prends ça dans ta gueule. Ta mère, c'est quoi l'éducation des gosses? C'est d'écouter de la connerie, là?
C'est du rap.
Écouter le slap, je sais pas quoi, la danse, vos danses de cul, là, et machin, et votre truc de nègre, hein?
C'est du rap.
Arrête avec tes codes. Tu sais que, te fous pas de ma gueule, bébé, tu sais comment que je suis, hein.
Oui.
Quand je suis parti en piste, on m'arrête plus, moi.
Mais je sais. Pardon.
Ben nous, on croit que faut pas arrêter la grève parce que c'est de la bombe, bébé.
Il était un petit ministre, il était un petit ministre qui n'avait jamais rien compris, qui n'avait jamais rien compris. Ohé, 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 Raphaël ne gouverne pas la rue.
Quand on dit c'est de la bombe, quand on dit la bombe, on dit ça dans le 9-3, quand on dit qu'on met le feu à Marseille, c'est des métaphores, hein. N'allez pas sauter sur votre téléphone et appeler Sarkozy en disant ça y est. Non. Simplement, avant la répression, commençons toujours par l'éducation. Alors vous allez trouver qu'on est un petit peu angélique, qu'on angélise un petit peu tout ça. C'est pas forcément entièrement exclu, mais avouez que ça change quand même de cette diabolisation, de cette démonisation systématique vis-à-vis de ces quartiers sensibles, comme on dit. Autrefois, on appelait ça les populations dangereuses. Finalement, ça n'a pas tellement changé, ou plutôt, nous assistons bel et bien à une régression. Mais quand on y est, quand on est tout simplement dans cette école Karl Marx à Bobigny, chacun essaye de vivre, chacun essaye de s'intégrer. parler. Chacun se pose des questions toutes simples et très profondes.
C'est quoi ce bouquet de fleurs qui se posait sur la table?
C'est cotisé pour m'offrir ça pour mon anniversaire.
Ah bon? Ah, ça c'est sympa.
Ouais, c'est très sympa. Ça m'a bien touché.
Qu'est-ce qui va pas là, puisque vous êtes impliqué dans un mouvement de grève, toute l'école est en grève. Là, c'est exceptionnel. Les enfants sont venus là aujourd'hui, mais
ben, ce qui va pas, c'est enfin, moi, je me sens plus concernée par les problèmes liés à l'école que par la retraite, même si c'est important aussi. Il faut pas le nier. Mais ce qui est très gênant ici, c'est que en fait. Bah, les enseignants sont très motivés dans cette école, il se passe plein de choses, on a plein de projets, on travaille ensemble et tout ça, donc il y a une bonne dynamique. Et d'ailleurs, on voit plus, tous les effets sur les enfants, il n'y a plus de bagarres dans la cour ou très peu. Enfin, c'est vraiment, il y a une super ambiance entre les adultes et les enfants entre eux, c'est de mieux en mieux. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pour les élèves qui ont des difficultés financières ou avec leurs parents qui sont débordés par leur travail, des choses comme ça, il n'y a rien pour nous aider en fait. Il y a la psychologue, elle est de bonne volonté, mais elle a je ne sais pas combien d'écoles à s'occuper avec beaucoup d'enfants à suivre, et donc elle suit pas grand chose. Le médecin scolaire, c'est pareil, pour le voir c'est la croix et la bannière. Et puis les assistantes sociales, et ben c'est très dur de les joindre et d'avoir des relations avec elles pour savoir ce qui se passe dans les familles, les choses comme ça, ce qu'on pourrait faire nous pour les aider. Donc et puis vu ce qu'ils prévoient, ça veut dire que déjà qu'on n'avait pas grand chose, mais là on va plus rien avoir du tout, quoi, c'est clair. Mais bon, c'est vrai que c'est des enfants qui chez eux sont pas vraiment soutenus. Enfin, en tout cas au niveau scolaire, même si les parents sont d'une très bonne volonté, ils sont pas forcément capables de les aider. Et c'est vrai que si on avait moins d'élèves dans les classes aussi.
Vous en avez combien là?
J'en ai 21.
C'est pas énorme.
C'est pas énorme, on est bien d'accord. Mais bon, si on en avait 16, ben, je pense que ça serait encore mieux. On pourrait faire encore plus de pédagogie différenciée et ça les aiderait encore plus, quoi.
C'est quoi le niveau ici?
Il y a des très bons élèves, hein, ça c'est sûr. Il y a aussi des très bons élèves, faut pas croire. Maintenant, ben, il y a des élèves qui sont en très grande difficulté aussi, quoi. Nous, ce qui nous motive dans l'école pour être en grève, c'est l'amélioration pour les enfants. C'est surtout ça. Et quand j'entends aux informations les gens qui râlent parce que ils ont dû garder leurs enfants deux jours chez eux et que ça leur enlève deux jours de vacances cet été, ben moi, ça me met en run, quoi. Parce que moi, si je me bats, c'est pour les enfants. Alors, c'est aussi pour nous, pour les retraites, mais... Enfin, dans l'école, ce qui nous motive, c'est vraiment aider les enfants qu'on a, nous, au quotidien, tous les jours dans nos écoles, quoi. Je pense qu'à long terme, au lieu de mettre l'argent dans la répression, ben, si on mettait l'argent dans l'éducation, sûrement qu'il y aurait moins besoin de faire de la répression.
Qu'est-ce qu'un mollusque? Donne deux exemples.
Un quoi?
Un poisson.
Une méduse.
Un escargot de mer.
C'est un animal qui est mou, enfin qui n'a pas de, qui est invertébré, qui n'a pas de corps.
Leurs corps sont mous, le plus souvent sont protégés par des coquilles. C'est pour cela qu'on les appelle les coquilles, comme les moules et les coquilles Saint-Jacques.
Il y a certains enfants qui ont des situations assez difficiles, oui, ça c'est sûr. L'exemple d'une petite fille de ma classe qui a sauvé un peu la vie de sa sœur en l'emmenant par le tramway à l'hôpital parce qu'elle avait un malaise. Il n'y avait personne, il n'y avait pas d'adulte pour l'aider. C'est,
en CM2, donc à 11 ans, à 10-11 ans. Ouais.
Voilà, d'autres enfants qui, avant d'avoir un appartement ici, ont vécu sous les ponts avec leurs parents, avec leur maman, il y en a un qui est comme ça. Des enfants qui, avant de partir en classe verte, te ramènent leur linge parce que ils peuvent pas partir, ils ont pas de linge propre. Donc, en gros, tu prends leur linge et tu vas chez toi et tu le laves et tu le ramènes pour qu'ils puissent partir en classe verte avec leur linge propre.
La vache, oui.
Ah, ok. Bah, tu fais le tour de tes amis pour récupérer des vêtements pour leur donner, même si c'est vrai que c'est pas notre travail et même si c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à distancier par rapport à ça. Parce qu'autrement, on rentre chez soi et puis on pleure tous les soirs, hein, comme la première année où t'es nommé dans ce genre d'école. Où t'es pas bien du tout parce que tu connais pas, t'es pas prêt à affronter ce genre de choses. La formation, à aucun moment, elle te parle de ce genre de choses que tu vas rencontrer dans ton quotidien, quoi. Donc c'est vrai que au fur et à mesure des années, c'est pas que tu te blindes, mais distancies. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que tu peux, une fois que t'as les 4h30, t'as quand même ça dans un coin de ta tête et c'est pas évident de vivre avec ce genre de choses, quoi.
Voilà, les nantis du 9-3, les privilégiés, les enseignants qui ont tous les jours et ben cette vie. Alors c'est pas une souffrance, hein, c'est une souvent c'est une vocation, en tous les cas c'est une fonction qui mérite peut-être un petit peu plus que le mépris. Bon, là on parle des enseignants, on sait que c'est toute la fonction publique qui est concernée. On a eu des messages des impôts, enfin d'agents des impôts, des hôpitaux, de absolument tout le monde. Et puis dimanche il y aura également le privé, les gens du privé, les salariés du privé qui seront dans les rues. Pour l'instant, on est dans cette école avec là c'est Laure, cet instit, cette prof, et puis Véronique, la directrice.
Ce qui rend les choses extrêmement difficiles, les parcours scolaires très difficiles, c'est le chômage, c'est les dépressions que ça engendre quand des pères ils sont enfermés chez eux sans boulot et que ben ils finissent par boire un coup de trop, ou que les mères elles prennent un petit médicament de trop. Quand les gens ils vivent le quartier comme l'unique lieu où ils se sentent en sécurité, dont ils ne peuvent jamais sortir, où le monde est confiné entre TF1 et attaque au centre commercial, voilà. Là, ça se passe mal. Mais là, la différence, elle n'est pas entre les Français et les immigrés. Elle est entre les gens qui ont une insertion sociale, par l'emploi, par le monde associatif, par plein de choses, et ceux qui ne l'ont plus. Et le destin scolaire des enfants, que les parents soient issus ou non de l'immigration, il est le même. Il est le même quand les parents vivent toutes les souffrances de l'exclusion. Des externalisations, des horaires épouvantables, voilà ce que je dis. Il faut arrêter de penser que le problème de la banlieue, c'est le problème de l'immigration. Le problème de la banlieue. Parce qu'on a laissé croire ça en ZEP. Il y a un moment où pour passer ZEP, il fallait avoir un certain nombre d'immigrés. Sinon, on pouvait pas avoir le label ZEP. Et ça, c'est du racisme. C'est faux. C'est faux. Moi, je refuse de remplir depuis des années un espèce de papier qu'on nous demande en début d'année avec nombre de Turcs, nombre de Chinois, nombre de je sais pas quoi. Ça n'a aucun sens. Par contre, je considère que quand un père d'élève en CP, il me marque comme métier électricien, quand en CE1, il me marque électricien au chômage, quand en CE2, il me marque chômeur, et qu'arrivé en CM1, il marque sans profession ou érémiste, ben là oui. Là, effectivement, on risque d'avoir un enfant qui va se plomber de désarroi d'année en année. Parce qu'ils portent les désarrois de leurs parents.
Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit à l'éducation.
Samedi, samedi, fanfan du flèche. Samedi, samedi, fanfan du flèche. Dans la reine, le suprême, la crème, la sauce sur le gâteau. Tu connais le deal, les gros, pas besoin que j'en fasse trop. C'est moi la voix qui fait ta décision dans tous ces états. Tu kiffes pas, ni comment viendra à toi. Voilà pourquoi j'ai pas droit, j'lâche pas 9-3. J'suis droit, avec un fond bestial. Ça c'est du sinistère. C'est du sinistère.
C'est du sinistère.
C'est du sinistère.
Bébé, c'est du sinistère. Faut donc ton gilet pare-balles à base de pop, pop, pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène sanie. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça s'en connaît au bébé. C'est du sinistère. Faut donc ton gilet pare-balles à base de pop, pop, pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène sanie. La bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se connaît au débit. Eh, ça se connaît au débit, baby. C'est la génération funky taquini. Pas de chichi, pas de chippy. Si tu dérapes, on te suit. C'est du sinistère.
C'est
de
la bombe, bébé.
Bonjour, madame Kelly. Comment allez-vous?
Bien fait, vous êtes.
Très bien.
Bon, alors, on en est où?
Alors, nous, on n'en est pas à reprendre.
D'accord, très bien.
Donc, lundi, on est fermé.
D'accord.
Mardi,
sûrement.
Je sens que ça va être pareil. Et jeudi, ça va être un peu selon ce qui se passe, quoi.
Selon l'évolution de ce qui va se passer.
Selon l'évolution.
D'accord. Voilà. C'est ce qui se passe. Mais c'est ce qu'on m'a dit aussi en école maternelle, ce qu'on m'a dit au collège, puisque moi, j'ai 3 enfants et je suis au niveau du collège, de la maternelle et du primaire. Donc, je donne depuis 5 semaines, je n'arrête pas de courir. J'ai 3 enfants, je travaille. ça devient dramatique là. Mmh. Ah,
Alors, est-ce que vous comprenez leur mouvement en même temps?
Je vais vous dire aussi, je travaille dans l'assistance publique. On n'arrête pas de nous aussi nous battre au niveau de l'assistance publique. Alors je me dis, si moi déjà je me bats à l'assistance publique pour avoir une santé, pour avoir quelque chose de correct, mes enfants ils vont avoir quoi si déjà je leur donne pas un enseignement correct?
Moi, c'est votre petite fille qui est derrière.
Oui.
Comment ils s'appellent vos enfants?
Alors j'ai Fadila qui a 10 ans, Habib qui a 13 ans, qui est en 6e, et la dernière Jamila qui a 5 ans. J'ai un peu de chance, on va dire, dans mes soucis, c'est qu'ils sont pas, on va dire qu'au niveau de l'enseignement, ils arrivent à suivre correctement. Je sais pas des.
Oui, non, c'est plutôt des bons élèves.
Voilà. J'ai envie de leur donner plein de choses à mes enfants. J'ai envie de leur donner plus que moi je n'ai eu. Et pourtant j'ai eu avec pourtant une famille issue de ce qu'on appelle la première immigration d'enfants. Bon, mes enfants, je suis très contente qu'ils soient ici. Ils ont pu aller en classe verte. On s'organise pour faire des choses extraordinaires à l'école. Depuis quelques temps, ils partent en classe verte. Ils font des voyages au Futuroscope. Ils partent à Oléron. Ils partent à des endroits où vraiment ils auraient jamais pu aller. Ma fille, elle avait jamais vu la mer. Je vais vous dire que j'ai eu quelques difficultés dans ma vie, même pas mal. Pendant quelques temps, moi, j'ai eu mon compagnon, enfin mon mari, qui était au chômage. Ben, je vais vous dire que pendant 4 ans, j'en ai bavé, mais j'ai toujours payé mon loyer, toujours fait tout ce qu'il y avait à faire, et les gens à l'extérieur n'en ont jamais rien su. Je m'arrangeais pour que tout se passe bien pour eux et qu'ils aient pas eu de problème. Une fois qu'il a retrouvé son travail, on a pu partir. Moi, ça faisait 10 ans qu'on n'était pas parti en vacances. Donc, on a... Oui.
Maman, la maison, tu pourras me donner quelque chose à manger?
Mais bien sûr, je vais donner quelque chose à manger, n'aie pas peur. T'inquiète pas. Et donc, c'est pour ça que, pour moi, l'école, c'est très, très important. Pour moi, si le seul moyen de s'en sortir, comme moi, je m'en suis sortie, et en plus, moi, je fais partie d'une génération où les filles, elles avaient du mal, parce que nos parents, avec les filles, ils les laissaient pas.
C'est d'origine algérienne.
Donc, on attendait qu'elles soient grandes et puis après on les marie. Donc moi j'ai eu de la chance d'avoir ma mère qui s'est battue, parce que mon père c'est ce qu'il voulait, et ma mère s'est battue en disant non, il faut qu'elle continue et qu'elle aille à l'école et qu'elle s'en sorte, parce que sinon, je sais pas.
Vous avez été où, jusqu'où?
J'ai été jusqu'au bac. J'ai même eu mon concours d'école d'infirmière. Pour moi l'école c'est très très important.
Tu te calmes, tu n'appelles pas ton frère. Non, tu n'appelles pas ton frère, tu vas pas faire des histoires.
Il avait grève. Il a dit, il va venir me chercher, il va voir.
Apollinaire, tu m'écoutes?
L'enfant aussi, il lui a dit ça, le chinois.
Ça sert à rien, non. Ça sert à rien d'aller faire des histoires dans la cité. Que de toute façon, vous allez finir par régler ça à l'école.
Donc tu sur la dalle, donc voilà. Il y aura personne pour nous séparer.
Bah justement, tu vas pas faire d'histoire sur la dalle. Tu te calmes.
Toi, parle pas avec moi, putain.
Tu te calmes.
Hey, Laila, tu vas voir ailleurs, putain.
Samy, tu vas voir ailleurs. Fatima, Kevin.
L'enfant, il va décéder.
C'est fréquent ça, les conflits comme ça dans la cour d'école?
Ici, les enfants, même dans les jeux, ils sont violents. C'est-à-dire que le foot, ils sont incapables de jouer au foot sans se faire des croche-pieds, sans se donner des coups de coude, sans se donner des coups de poing. Jouer au foot, c'est pas possible. Respecter les règles du foot, c'est pas possible, quoi. Déjà, il y a pas mal de garçons de l'école qui suivent l'exemple des grands, ils traînent avec les grands sur la dalle, dans la cité. Ils sont dehors tard jusqu'à des heures pas possibles, et ils se laissent influencer par les grands dehors, quoi. Et ça se reflète aussi sur ce qu'ils peuvent penser de l'école, sur le fait de faire les devoirs, de venir à l'école, de sécher les cours, etc. Donc puis bon, c'est vrai que c'est des enfants qui passent leur temps sur la dalle, donc on sort souvent, des fois nous on sort de réunion ici à 20h et on les voit, on les croise, il y en a certains qui sont même pas rentrés chez eux, qui ont encore le cartable sur les doigts alors qu'ils sont sortis à 4h30, donc on les prend comme ils sont, quoi. Mais j'ai du mal à concevoir qu'on puisse faire un enfant et le laisser considérer qu'à 10 ans il soit capable de s'occuper tout seul de lui-même, de se faire à manger, de se lever tout seul le matin, de s'occuper de la maison, de tout faire, quoi. Mais c'est vrai qu'on vit pas non plus ce qu'ils vivent ici, quoi. C'est pas facile. Quand on voit le taux de chômeurs qu'il y a sur l'école, je pense que effectivement, si j'avais du chômage de longue durée, j'aurais peut-être pas envie de me lever le matin, et je penserais peut-être aussi à autre chose que élever mon enfant, quoi. Enfin, je sais pas.
Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit à l'éducation. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions,
Repli, communautariste, ghettoisation, islamisation. On assiste à des analyses, on entend des analyses un peu partout, des regards sur ces quartiers sensibles qui vont vers l'ethnicisation, le repli. Mais il y a d'abord tout simplement un apartheid social, social avant tout. Et ce qui se dit, ces mots, c'est ce qui se vit, et ces mots AUX qu'on sent là dans cette école, et ces espoirs, et ce travail, et ces envies, et ces désirs d'intégration, eh bien tout ça indique simplement que l'école, c'est l'intégration, que l'école est un moyen formidable de lutter contre les inégalités, et que la compétition économique mondiale à laquelle nous serions tous soumis est incompatible avec la mission de l'éducation nationale.
Tout le monde a plein la bouche. Les syndicats, l'administration, le seul truc sur lequel tout le monde est d'accord, c'est la réussite scolaire. Mais moi, je sais que dans la tête des gens, la réussite scolaire, c'est que leurs enfants, ils aient plus de diplômes qu'eux. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a le CAP, si son gamin il a un bac pro, ça y est, son gamin a réussi. Mais ce concept de réussite scolaire calqué sur la réussite sociale, c'est un concept erroné. La réussite sociale, c'est pas la réussite humaine. Si on prend par exemple l'abbé Pierre, c'est pas le mec qui a fait un max de stock option dans sa vie. Et moi, je crois que de montrer comme exemple de réussite des gens comme Zidane ou Bébéard, c'est-à-dire la réussite, c'est le fric et le cul.
Vous, ici, vous dites, ma mission, c'est de fabriquer des citoyens, c'est ça?
Bah oui, oui. Moi, je dis pas aux gamins qu'il faut apprendre à lire, à écrire et à compter pour avoir un bon boulot. J'en sais rien s'ils auront un bon boulot. Il y aura peut-être 30% de chômeurs quand ils vont arriver sur le marché du travail. Et ils vont peut-être tous finir chez Pizza Hut avec la moitié du SMIC. Mais par contre, je pense qu'il faut apprendre à lire, à écrire, à compter, qu'il faut connaître les auteurs, les musiciens, qu'il faut voilà participer d'une culture pour être le citoyen d'un pays. Et pas un sous-produit cloné TF1. Et ça, ça n'a aucun rapport avec le métier qu'ils auront plus tard. Aucun. Si ça se trouve, ils seront ouvriers. Et c'est pas grave. D'accord? C'est pas grave d'être ouvrier. Faut arrêter de penser que tous les Français vont être cadres sup, hein. Moi, je ne sais pas ce qu'ils deviendront. Leur destin, il est quand même dans leurs mains. C'est pas parce que leurs parents ont pas de fric ou ont des difficultés sociales ou que pour certains d'entre eux ils sont perturbés par la difficulté de vie. Dans ces enfants par exemple perturbés par la difficulté de vie, il y a des enfants qui ont des créativités extraordinaires. Il y a pas que de l'échec scolaire. Il y a aussi du désir, de l'espoir, de la vie. Je veux qu'on arrête de se plaindre sans cesse. Je veux dire, la banlieue, c'est aussi un lieu formidable, avec des gens formidables. Et moi, par exemple, je ne parle jamais des familles. Je ne reçois pas les familles, je reçois les parents. Chaque fois qu'on est en ZEP, on parle des familles. Dès que vous êtes hors ZEP, le lycée Montaigne, il reçoit les parents.
C'est vrai, ça, oui.
Mais oui, et c'est un signe. Voilà. Je dis pas qu'on n'a pas de difficultés, je dis au contraire, c'est terrible. C'est terrible, parce que à des moments... Moi, j'ai fait doubler un élève de CE1 parce que personne n'avait soigné ses dents pendant tellement longtemps que toutes ses dents étaient cariées. Il avait tellement mal qu'il a rien pu apprendre. Ben, je m'excuse, mais on a les tripes nouées quand on fait ça.
Et dimanche, comme on a le moral, on vote la grève générale.
Merci à tous, merci à Véronique Decker, la directrice de l'école du groupe scolaire Karl Marx à Bobigny, à Laure Lieberman, à Madame Karima Kebli, à tous les enseignants et les parents d'élèves et aux enfants, aux élèves. Deux bouquins, L'école n'est pas une entreprise, de Christian Laval aux éditions La Découverte, L'école prostituée, l'offensive des entreprises sur l'enseignement, de Nico Hirt aux éditions Labor. C'était un reportage de Thierry Schaff, technique aujourd'hui Pascal Baldassari et Mathias Salléon, assistante Joël Levert, le répondeur c'est Christophe Imbert. Le numéro du répondeur c'est le 01 56 40 37 37. C'est Coyenne Guyenne qui s'est occupé des petites musiques et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.